L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème « Demain ne meurt jamais », un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bienvenue sur Radio Imo et sur Radio Territoria. On est ravis de vous faire vivre la REF 2023, cette seconde journée de ce bel événement, la rencontre des entrepreneurs de France organisée par le MEDEF. Et je suis avec Joël Le Breton. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'ONG AgriSud International. Vous avez débattu justement sur une des scènes de cette REF 2023. Alors, avant tout, pouvez-vous nous présenter l'ONG AgriSud International ? Que faites-vous ?
Alors AgriSud est une ONG de développement économique dans le domaine agricole et nous intervenons uniquement dans les pays du Sud, c'est-à-dire Afrique, Amérique latine, Asie en fait. Voilà. Et ce que nous faisons, c'est d'essayer de sortir de la pauvreté des paysans qui dans ces pays-là vivent souvent très très mal, par l'entrepreneuriat. En fait. Donc nous essayons de transformer des agriculteurs en entrepreneurs de très petites entreprises, mais c'est une logique effectivement d'entreprise. Donc paradoxalement, nous sommes une ONG qui crée des entreprises.
Donc vous les aidez, j'imagine, à développer peut-être leur savoir-faire avec des outils, voilà. À devenir plus rentable en fait au final.
Voilà, en fait, dans ces pays, dans les pays dont je parle, souvent les paysans dans les zones rurales vivent très en dessous du seuil de pauvreté. Ils n'arrivent pas à vivre de leur terre et sur leur terre.
Bien sûr. Et c'est dû à quoi en fait ? Ils ont.
Ben, c'est dû au fait.
Ils sont mal équipés. Ils sont.
En fait, c'est dû à un ensemble de raisons, effectivement, qui sont liées. Je dirais à l'agriculture, aux techniques agricoles qui sont liées, je dirais, aux conditions climatiques qui se durcissent
aussi, oui.
Dans ces pays-là. Et en fait, je dirais, nous avons trois mots clés en fait, hein, pour travailler en fait. Hein. Nous avons le mot entreprise, c'est-à-dire que nous accompagnons ces producteurs dans un processus de professionnalisation, c'est-à-dire quel choix de production, de produits. Or, comment gérer leurs petites entreprises, comment accéder au marché, puisqu'en fait, il ne s'agit pas simplement de produire, mais voilà, il faut aussi vendre les produits. Et regrouper des petits producteurs pour qu'ils soient un peu plus forts, justement, par rapport au marché. Donc, c'est toute une logique d'entreprise. On essaie de les transformer en entreprise. Notre deuxième mot-clé, c'est agroécologie. Alors l'agroécologie, c'est pas de l'idéologie, hein. C'est pas juste pour faire bien, c'est simplement que dans les contextes de ces pays, où en fait il y a beaucoup de petits agriculteurs, l'agroécologie, c'est le moyen d'avoir une agriculture qui est productive, la plus productive, par rapport à l'agriculture traditionnelle. Avec l'agroécologie, on double les rendements, voire on les triple. Ça paraît étonnant de dire ça en France, mais en fait c'est la réalité. Et puis ça permet d'avoir aussi une agriculture plus rentable, parce qu'en fait, par l'agroécologie, ça veut dire qu'on se passe d'intrants chimiques, donc on fait des économies. Et puis, je dirais, ça fait des produits de meilleure qualité, sur lesquels il y a moins de pertes, parce qu'ils résistent mieux aux conditions de conservation. Et comme ils sont bio, en fait...
Comment il peut y avoir moins de pertes s'il y a moins de produits, justement ?
Mais si, il y a moins de pertes parce qu'en fait, des produits sains se conservent mieux que des produits qui sont boostés avec des engrais chimiques, etc. En fait. Donc en fait, il y a moins de pertes entre la production et la commercialisation.
D'accord. Parce que moi, je pensais que c'était l'inverse, en fait, que justement, le bio, ça se garde moins longtemps, en général, quand on achète des fruits et légumes bio.
Oui, mais dans ces pays-là, en fait, la production, on est sur des cultures vivrières et sur des marchés de proximité. Hein.
Oui.
Donc, je dirais, il n'y a pas... Mais je dirais, des produits bio se conservent beaucoup mieux.
D'accord.
En fait, que des produits qui sont, boostés chimiquement, en fait. Enfin, et donc, on a une agriculture qui est plus rentable, qui est plus productive. Donc, et au global, ces paysans qui... vivent peut-être avec $1 par jour en moyenne, c'est ça là, un peu le revenu, on les amène à 4 dollars par jour. 4 dollars par jour
donc
dans ces pays-là.
Vous quadruplez leurs revenus.
On quadruple leurs revenus. Et dans ces pays-là, le seuil de pauvreté, c'est 2,2 dollars, en fait, à peu près. Donc ça veut dire qu'on les sort de la pauvreté, en fait. Voilà. Et notre troisième mot-clé, c'est territoire. C'est-à-dire qu'on travaille à l'échelle d'un territoire et où on essaie de mobiliser tous les acteurs du territoire pour favoriser le développement économique de ces petites entreprises. Donc on mobilise les acteurs publics, les pouvoirs publics, on mobilise les autres acteurs économiques du territoire, on mobilise la société civile pour créer un écosystème favorable à un développement économique local. Et je dirais comme ça, en fait, on arrive effectivement sur un territoire à l'échelle, peut-être en France, ça serait à l'échelle d'un département ou quelque chose comme ça. Voilà, on arrive à sortir quelques milliers de producteurs de la pauvreté et en fait à créer un tissu de TPE, PME qui est à mon avis la base du développement de ces pays en fait.
Alors comment les entreprises justement peuvent intervenir, peuvent vous aider à aider ces paysans justement?
Alors effectivement, notre mode d'intervention, comme nous nous adressons à des paysans qui voilà, sont dans une extrême pauvreté, ce n'est pas eux qui rémunèrent notre action de formation, de transfert de compétences, donc on ne compte pas sur eux. Donc on a deux modes d'intervention, c'est soit on intervient à la demande de gouvernements locaux ou avec le soutien d'aide publique internationale, hein, d'aide publique au développement, comme l'Agence française de développement qui nous soutient en fait. Enfin, donc, qui nous finance nos actions à l'échelle d'un territoire donné qu'on a choisi ensemble. Puis on a un deuxième mode d'intervention qui sont des partenariats avec des grandes entreprises françaises qui se préoccupent de leur politique de RSE, en fait, hein, et qui prennent ça au sérieux. Et là, on est dans leur activité normale. Soit c'est des entreprises qui cherchent à structurer des filières d'approvisionnement responsables, parce qu'elles ont besoin de trouver des produits qui se trouvent dans ces pays-là et voilà, d'avoir une traçabilité de leur approvisionnement qui a un vrai impact social, économique et environnemental, hein, puisque l'agroécologie, non seulement ça permet à ces agriculteurs de mieux vivre, mais ça préserve aussi la biodiversité,
oui,
ça évite la déforestation, etc. Mmh. Et donc... Voilà, on aide des entreprises françaises à monter des filières d'approvisionnement. Par exemple, L'Oréal, on travaille avec L'Oréal. Avec L'Oréal, on a monté, il y a 2 ans, en fait, une filière d'approvisionnement en huile d'olive, qui est un des composants de cosmétiques qu'utilise L'Oréal. Et en fait, L'Oréal souhaitait avoir un approvisionnement avec... qui partent de petits producteurs. Donc on a monté, je dirais, ce genre de filière. Donc, ce qui veut dire que ça nécessite de la part de L'Oréal, ou je pourrais parler du Club Med, qui est un autre exemple intéressant, en fait, de modifier les politiques d'achat, hein, parce que ça veut dire qu'il faut adapter la politique d'achat à, je dirais, un contexte qui n'est pas le contexte habituel qu'on peut trouver en France. Et puis, de notre côté, enfin, nous, on aide les producteurs à se structurer pour avoir le niveau de qualité, de régularité, de fiabilité, de traçabilité, en fait, de leur production. Voilà. Et autre exemple...
Donc, le Club Med.
Le Club Med, là, c'est une logique un peu différente. Le Club Med a des villages de vacances dans ces pays-là. Et en fait, la question, c'est ces villages peuvent-ils s'approvisionner en produits frais localement plutôt que par des centrales d'achat qui viennent d'Europe, en fait. Et donc, on a monté avec le Club Med des partenariats dans les différents villages pour qui s'approvisionnent en produits frais localement. Et nous, on a monté du côté des agriculteurs la capacité à répondre à cette demande. Et en fait, ce partenariat, finalement, progressif, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Vous imaginez que...
Bien sûr, voilà,
j'imagine. Tout ça n'est pas, ça ne fait pas d'un claquement de doigts. Mais je dirais que on a fait l'évaluation en fait de ce partenariat avec la direction générale du Club Med l'an dernier. En 2022, on a travaillé sur 10 villages du Club Med qui ont permis en fait à 500 petites entreprises d'approvisionner ces villages du Club Med, qui leur ont livré à peu près 200 tonnes de produits frais. Et ça a permis de sortir 3000 personnes de la pauvreté. En fait. Voilà, donc c'est un résultat tangible. Et en fait, c'est un résultat tangible qui n'est pas du mécénat pour le Club Med. Parce que le Club Med, il trouve son compte, en fait. Le Club Med, il trouve un intérêt.
Bien sûr.
Parce qu'il y a un retour client qui est très favorable. Il y a un retour de la part de leur personnel qui est aussi qui permet un engagement, une fierté du personnel.
Donner du sens
à leur activité. Alors,
oui, à ce qu'ils font au quotidien.
Voilà. Ça permet une meilleure insertion des villages dans les communautés locales, donc avec plein d'effets secondaires positifs, en fait. Donc voilà, donc c'est un investissement du Club Med, mais c'est un investissement qui a un vrai retour sur investissement. Donc ça fait partie de du business normal, en fait. Hein. Et d'ailleurs, le bilan qu'on a fait avec la direction générale du Club Med était suffisamment positif pour que la direction générale décide de généraliser ce programme à l'ensemble des villages, dans les pays en question. Donc on a un premier objectif à 2025, qui est de passer de 10 à 30 villages, en fait, et donc de tripler, en fait, un peu tous les chiffres que je viens de vous donner.
Alors, on est à la rencontre des entrepreneurs de France. J'imagine que votre venue ici a un objectif particulier. Est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que vous êtes arrivé ce matin ? Est-ce que vous avez pu rencontrer des entrepreneurs, leur présenter Agrisud International ? Est-ce qu'ils ont été sensibles à cette ONG ? Est-ce que vous faites ?
Oui, moi, je remercie les organisateurs de nous avoir invités, hein, parce qu'en fait... Inviter une ONG dans une rencontre d'entreprise, c'est pas complètement naturel, en fait, enfin, on peut dire. Mais nous, on se sent parfaitement à l'aise ici, parce que nous, on est une ONG vraiment branchée sur les entreprises. Et effectivement, nous, on est venus ici parce qu'on pense qu'il y a un vrai potentiel de développement, je dirais, de notre activité et de partenariat avec des entreprises. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques entreprises. Et j'espère qu'effectivement, on va pouvoir faire... un chemin ensemble, mais ça se fait pas comme ça, en fait. C'est une décision, parce que ça nécessite des vrais changements, des transformations de politique interne. Enfin, voilà, donc,
bien sûr.
C'est un processus assez long, mais nous, on est prêts à travailler dans la durée.
Alors, un site internet pour vous trouver, pour les auditeurs qui nous regardent.
Agrisud.org, enfin
www.agrisud.org, tout simplement.
Voilà.
Eh bien, merci infiniment, Joël Le Breton. Et puis, on va se rendre donc sur votre site, parce que ce que vous faites, c'est quand même incroyable. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème « Demain ne meurt jamais », un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.